6, 5, 4, 3, 2, 1.
Extra-muros.
Extra-muros.
Transistor sort de ses murs.
Transistor sort de ses murs.
En direct et en public.
En direct et en public.
Extra-muros.
Bonjour tout le monde, ici Pierrot et Jerry qui animons cette radio. Nous sommes habitants de Douarnenez et vous écoutez Vos gueules les mouettes en public sur la place du Festival du cinéma et en presque direct sur la radio Transistor 100.4 FM. Le Festival du cinéma de Douarnenez consacre cette année une partie au logement et aux occupations. Nous allons donc réfléchir autour de ça dans cette émission.
Une caravane. Un barnum. Une place. Une radio. Vos gueules les mouettes. Transistor.
Nous rappelons que dit l'outens, le monde est ou bien plus contents. En avant est venu del travail ne cantant, jusqu'à l'hostal ne cantant, jusqu'à l'hostal.
Pour le petit clin d'œil, ce jingle est composé du morceau Cocana, la valse d'Emiliana, que l'on peut notamment retrouver dans la bande-son d'Une île et une nuit, le film collectif des pirates des Lentillères. Ces jardins de vie occupés contre la gentrification depuis 15 ans au cœur de Dijon, en Bourgogne-Franche-Comté. Nous allons aujourd'hui parler du droit au logement. Mais évidemment, pour ce faire, il nous faut surtout parler d'un droit dit absolu, qui est le droit à la propriété privée. C'est justement à l'intersection de ces deux droits que réside l'occupant sans droit ni titre. Autrement dit, le méchant squatteur qui aime faire la une des faits divers. Pour cela, nous devons d'abord nous demander les causes, les motivations et donc les réelles raisons qui motivent, du moins contraint, certaines personnes à squatter, donc à occuper illégalement un logement dont il n'est pas propriétaire ni bailleur. Il est important aussi de se demander ce qui pousse ou contraint au squat, mais également quel droit nous avons à occuper un logement, résidence ou local commercial, malgré qu'on nous répète que ces actions sont illégales. Qu'est-ce qui légitime davantage la propriété privée au droit de domiciliation? Qu'est-ce qui rend naturel dans nos interactions l'accès ou l'interdiction à la propriété privée plutôt qu'à la propriété d'usage? Pour l'occasion, nous allons discuter avec Carolina, habitante du squat des Roches Blanches, avec des usagers de la cantate, Bat et Rémi, qui est un squat aux usages culturels multiples. Et ces deux lieux sont situés à Douarnenez. Pour finir, nous allons parler avec Guillaume, co-auteur du livre « Habiter une ville touristique » avec l'ancien collectif « Droit à la ville Douarnenez ». Nous allons creuser les liens entre urbanisme, gestion du territoire et logement. Ce sont des lieux occupés qui ont subi ou subissent une répression. Et c'est pour ça qu'on a envie de comprendre dans cette émission les besoins qui ont mené à l'occupation de ces lieux, que ce soit pour répondre à des besoins de logement, mais aussi combler le vide que les politiques d'austérité et l'effondrement des services publics laissent derrière ces coupes budgétaires étouffantes. Nous allons aussi écouter des textes avec Émile, qui nous aidera à situer notre rapport historique à la propriété privée et d'usage, et à comprendre les dynamiques qui configurent notre monde bipolarisé nord-sud. Pas de panique, nous allons essayer au mieux que l'on peut de définir les termes juridiques qui déterminent notre accès le plus matériel au logement. Car la loi définit la réalité concrète des personnes, et les politiques définissent les lois. Il est donc important d'avoir accès à ces termes qui, derrière ce semblant d'abstraction, déterminent notre être au monde. Les statistiques ne sont pas exhaustives, et semble prendre en compte la France hexagonale et certains territoires d'outre-mer. D'après l'INSEE, l'Observatoire des inégalités, le ministère des Solidarités, nous estimons environ 300 000 sans domicile fixe recensés par le biais des logements d'urgence et ou le CCAS, sans compter celles et ceux étant hébergés chez des proches ou à la marge de toute institution. Pour autant, l'INSEE comptabilise 3,1 millions de logements vacants, soit 8,2% du parc privé. Les logements vacants augmentent 2,3 fois plus que le nombre total de logements. Il est ainsi évident qu'il y a assez de logements pour chacun, chacune d'entre nous. Sans parler du fait que nous n'évoquons pas seulement des personnes ayant la nationalité française, mais cela concerne en partie les personnes irrégulières. Et qu'en plus, beaucoup de logements sont vides. Avec cela, une tendance à affirmer des lois anti-squat de plus en plus répressives et des délais d'occupation réduits. En d'autres termes, des expulsions et des mises à la rue des habitantes. Il faut juste comprendre que le droit de propriété est absolu, complet et exclusif. En France, un propriétaire bénéficie d'un droit d'user, de fructifier et d'abuser de leurs biens. C'est-à-dire, ils ont tout pouvoir et exclusivité sur l'utilisation de leurs biens, donc de l'habiter, le transformer et le louer dans la mesure des lois relatives au logement. Dans les faits, le droit à la propriété gagne toujours. Du moins, il finit par être appliqué en dernière instance face au droit à la domiciliation lors des procédures de squat. Car en finalité, les occupants se font expulser et le propriétaire peut de nouveau jouir de sa propriété. Évidemment, nous parlons de résidence secondaire dans ce cas. Depuis la loi Dalo de 2007, le droit à la domiciliation permet à l'occupant d'avoir des délais tels que la trêve hivernale, scolaire, etc. Pour autant, la loi ASAP de 2018 a changé certains traits de la loi pour permettre au préfet d'intervenir s'il juge que l'occupation est illégale, s'il y a des dégradations, voies de fait et menaces, même lorsqu'il s'agit d'une résidence secondaire. Le doyen Védel, acteur du renforcement du droit de propriété, dit que l'article 17 de la déclaration de 1789 avait initialement été conçu contre les expropriations abusives, donc pour protéger les biens immobiliers. Le droit au logement n'est pas inscrit dans la Constitution, contrairement au droit à la propriété privée. Il n'a que la vocation de devenir constitutionnel, mais il est beaucoup critiqué dans sa non-application. Et pour finir cette introduction, je voulais vous parler de la loi Kasbarian, qui est une loi anti-squat qui date de 2024, qui a fait beaucoup de mal autant aux locataires qu'aux squatteurs et squatteuses, en pénalisant et durcissant la loi, in fine, amoindrissant le droit au logement en protégeant les propriétaires, en particulier les multipropriétaires qui spéculent sur leurs biens. Ainsi, nous allons voir dans cette émission ce que signifie réellement le squat, se poser des questions sur notre rapport à la propriété et au logement, et voir en quoi nous ne pouvons pas dissocier les politiques actuelles des enjeux de domiciliation et de création de lieux collectifs.
La casa è di chi l'abita e un ladro chi lo ignora. La casa è di chi l'abita, la terra è di chi la lavora.
Ici, nous sommes à Douarnenez, Vogel les Mouettes, sur la place du festival, diffusé sur la radio Transistor 100.4 FM. Nous allons accueillir Carolina, qui est habitante aux Roches Blanches. Et du coup, je vais lui poser quelques questions. Donc Carolina, peux-tu nous faire un historique des Roches Blanches? Depuis combien de temps ça dure, les activités, le nombre de personnes et la situation aussi des personnes présentes dans le lieu?
Alors, l'histoire va être très longue, mais je vais essayer de faire court. C'est un lieu qui est occupé depuis 2010, donc depuis 15 ans. Et en fait, il y a des centaines de personnes qui ont vécu dans ces lieux. Au début, c'était un petit groupe de 10-15 personnes qui l'ont ouvert. Et aujourd'hui, nous sommes une cinquantaine. Et entre-temps, il y a eu plein de générations de gens qui sont passés, que ce soit pour y vivre et que ce soit juste pour passer un temps. C'est un lieu en fait, qui accueille beaucoup de gens, que ce soit en situation de précarité, mais aussi des artisans, artisanes et des artistes. Et parce qu'il y a énormément d'ateliers dans les lieux, donc je vais les énumérer. Donc il y a un atelier bois, menuiserie assez important avec des super bonnes machines qui est vraiment ouvert à tout le monde, que ce soit aux habitants et habitantes, mais aussi aux gens du territoire. Il y a aussi une salle polyvalente qui aujourd'hui est devenue un peu salle des sports surtout, mais dans laquelle on peut faire des épures, des charpentes, on peut faire aussi, on peut couper des voiles, des bateaux, etc. On peut faire aussi des stages de danse. Et aujourd'hui, c'est un peu notre QG des défenses du lieu. On va trouver aussi une voilerie, scellerie, et pour faire aussi des grands travaux textiles. On va trouver un atelier couture, un espace art vivant et autres, parce qu'il est aussi un peu polyvalent. Il y a une forge, un atelier métal, un atelier vélo, un art plastique. Il y a une fromagerie, et il y a une chèvrerie, et un studio son, et une autre salle qu'on appelle les communs, qui est une salle polyvalente. Est-ce que j'ai répondu à tout ?
Ouais. Et du coup, qu'est-ce que c'est à peu près la situation des personnes qui vivent quelle est la situation des personnes qui vivent aux Roches Blanches ? Enfin...
La situation sociale et économique ?
Oui, c'est ça.
Bah, la situation sociale et économique, en fait, varie énormément. Il y a des gens qui sont vraiment précaires et qui sont venus parce qu'ils ne trouvaient pas des... Bah, du coup, comment se loger ? Il y a aussi des gens qui travaillent, mais qui sont quand même dans une précarité des logements, puisqu'en fait, il y a une énorme tension immobilière à Douarnenez. Et il y a des gens qui sont arrivés parce que les lieux leur plaisaient. Et en fait, en vérité, les lieux sont nés parce qu'il y avait un manque d'espace à Douarnenez, que ce soit des vies ou des travails, ou juste d'ateliers, pas forcément des travails, mais d'ateliers.
D'accord. Et du coup... On va parler un peu plus juridique. Quelle est l'évolution du coup de la situation juridique des Roches Blanches ?
Alors, les Roches Blanches, c'est un ancien centre de vacances qui a été occupé à la dernière. La dernière occupation, c'était Fossépi, une structure qui est du territoire du Yonne, qui avait 29 lieux en France. Et qui était une structure pour les écoles publiques élémentaires du Yonne. Et en fait, ils sont partis en liquidation judiciaire. Ils ont fermé les lieux en 2007 et la liquidation judiciaire, elle a été mise en 2009. Et aujourd'hui, il y a 7 ventes aux enchères des Roches parce que c'est les derniers lieux qui restent à Fossépi en liquidation. Donc Fossépi ne pourra pas fermer tant que cette liquidation ne sera pas faite. Donc la situation judiciaire, c'est que nous sommes occupants sans droit ni titre. Et que nous sommes tiers dans cette histoire, donc on n'a même pas été informé qu'il y avait cette vente aux enchères. Et elle a été mise en avril 2025 par les tribunaux des Quimper, et nous l'avons appris par voie de presse le 27 juin, comme tout le monde, parce qu'il y a eu une fuite des presses des Rennes vers Douarnenez. Et la situation judiciaire, c'est juste en fait qu'on a essayé tous les recours juridiques possibles pour annuler ou reporter cette vente. Et par la loi, en fait, on n'avait aucun droit.
Ok. Et du coup, suite à cette vente aux enchères, vous avez décidé d'acheter, collectivement le lieu. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette cagnotte
Oui. Alors, ça a été très dur de se décider d'aller à cette cagnotte. Ça l'est toujours pour beaucoup de gens. Parce qu'en fait, on croit plutôt au droit d'usage. Et non pas forcément au droit d'achat. Et justement, comme tu as dit dans l'introduction, cette cagnotte, on l'a mise en place parce qu'on n'avait aucun recours et que vu les durcissements des lois, c'était très compliqué. Et on a été conseillé par des structures comme les CLIP ou l'Échappée, ou aussi on s'est basé pas mal sur la foncière Antidote. Là, il y a l'école des Castors aussi qui est venue vers nous. Et donc, juste, on essaye de faire sortir cet endroit, ces lieux, de la propriété foncière. Donc, ça serait une association qui l'achèterait via cette cagnotte et personne ne serait propriétaire. On a voulu qu'il y ait un redémarrer des petits dons, type 7000 personnes qui donnent 50 euros, ça aurait donné 350 000 euros. Bon, il y a quand même plus de 600 donateurs et donatrices, ce qui est déjà génialissime en 3 semaines. Et du coup, c'est via Hello Asso, l'association L'essence de la vis. Voilà, je fais de la pub.
Et du coup, je me posais des questions, comme tu disais qu'il n'y avait pas tout le monde qui était très motivé par l'achat, que c'était un peu compliqué. Du coup, quels sont en fait les enjeux politiques auxquels vous faites face au sein du collectif, c'est-à-dire individuel? Enfin, si tu peux répondre à ça, quel est votre lien entre vous par rapport à tout ça et votre organisation interne?
Au début, il y a eu beaucoup de transmissions. On s'est organisé en commission. Et au début, il y a eu beaucoup de burn-out. Il y a eu quand même, ça a été très difficile. À un moment, il y avait toutes les stratégies possibles, que ça soit juridique, que ça soit économique, qui allaient se mettre en place. Au bout d'un moment, il y a eu une décision de revenir qu'est aux stratégies juridiques et défense du lieu sans l'achat. Après, c'est revenu parce qu'on a pris conseil auprès des avocats, des juristes, etc., etc. Et en fait, c'est pas très facile parce que c'est dur pour beaucoup de gens de prendre cette décision. Et il y a un consensus général qui est on va à cet achat parce que en fait, c'est les derniers recours. Et il y a eu un tour il n'y a pas très longtemps. Il y a eu une AG dans laquelle il y avait les sentiments de chacun face à l'achat et face à une possible expulsion. Et ça a été assez général comme sentiment. C'est OK, les groupes y vont, j'y vais. Et je crois que pour nous, c'est hyper triste de devoir arriver à ça, que les mandataires ne nous aient pas proposé. On ne sait même pas, en fait, si la liquidation judiciaire, elle a déjà réussi à rembourser tous les créanciers ou pas, parce que les mandataires, en fait, ils ne veulent juste pas communiquer avec nous. Donc, et ça se peut que pour un euro symbolique, on aurait pu avoir les lieux parce qu'en fait, ils n'en ont pas besoin de cet argent. Sauf que les mandataires, il a juste un pourcentage et ce qu'il veut, c'est faire du fric. Donc... en fait, c'est hyper douloureux. Il y a des réunions qui se passent super bien, des réunions qui se passent beaucoup moins bien. Et bref, on essaye de composer avec ça. Et pour l'instant, on y va. C'est une des dernières décisions. Et normalement, là, vu les soutiens qu'on a, on va essayer.
OK. Et du coup, parce qu'il ne nous reste pas énormément de temps, je voulais te poser des questions plus par rapport à ton lien vis-à-vis du squat et de l'occupation de bâtiments abandonnés. Et qu'est-ce que ça t'a apporté aussi dans ta relation à toi et aux autres d'occuper ce lieu, les Roches Blanches notamment?
Alors moi, ma relation au squat en général, c'est que moi je viens d'un quartier squatté. Donc, je suis née dans un lieu qui, juste occupé un appartement. C'est un quartier HLM très mal géré par la municipalité. Donc, et les gens s'entraidaient pour ouvrir les portes des appartes qui étaient fermées. Donc, pour moi, c'est juste naturel et évident d'occuper les lieux. En fait, ça ne va pas plus loin que ça. Et les Roches, personnellement, j'étais arrivée d'un lieu des luttes dont je ne veux pas parler, qui m'a énormément blessée. Et du coup, j'étais arrivée un peu cassée d'un autre lieu occupé. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée, justement, l'ouverture et les non-jugements qu'il pouvait avoir dans ces lieux. Et en fait, on était beaucoup moins nombreux et nombreuses. On était 13 ou 15 quand je suis arrivée, plus les gens des passages. Aujourd'hui, on est une cinquantaine. Et il y a quelque chose aux Roches qui m'émue, même malgré tous les... En fait, ça fonctionne, ça dysfonctionne, ça s'alterne énormément, mais c'est l'entraide. Et justement, j'ai la sensation d'avoir des gens qui sont de la famille là-haut, quoi. Je sais pas. En fait, en vérité, moi, j'étais en train de me dire depuis un peu de temps que j'allais partir du lieu, qu'il fallait que je laisse cette place pour d'autres personnes. Et en fait, quand tout ça s'est arrivé, juste, je me suis dit, pour l'instant, je reste à fond et il faut défendre l'intention de ces lieux, en fait. Donc, c'est aussi ça, en fait, c'est un lieu des possibles. Ça prend beaucoup de temps, les décisions, ça prend beaucoup de choses, mais voilà, c'est un lieu qui permet qu'il se passe plein de choses.
D'accord, merci beaucoup, Carolina, pour cette interview. Et puis, n'hésitez pas à soutenir les Roches Blanches. Et du coup, maintenant, nous allons écouter Émile.
Alors, bonjour. Alors, aujourd'hui, la vision dominante de la propriété, c'est la conception libérale. Ça nous dit que la propriété, ça relève d'un droit naturel que c'est inhérent à l'espèce humaine, que c'est un droit fondamental et absolu. Bon. Mais c'est un concept assez récent, en fait, la propriété privée. Pour illustrer ça, je vais vous lire un extrait d'un archéologue et d'un anthropologue, David Graeber et David Wengrow, au commencement était une histoire de l'humanité. Dans de nombreuses sociétés, on estime que les véritables propriétaires des terres et d'autres ressources naturelles sont les dieux et les esprits. Les mortels ne sont que des squatteurs, des braconniers ou, au mieux, des gardiens. Certains agissent en prédateurs, par exemple les chasseurs, qui s'emparent de ressources appartenant aux divinités. D'autres en protecteurs, dans le sens où l'on ne saurait être considéré comme propriétaire ou maître d'un lieu que si l'on est responsable en dernier ressort de son entretien et de sa surveillance. Parfois, les deux attitudes coexistent. Ainsi, en Amazonie, capturer des bêtes sauvages pour en faire des animaux de compagnie participe du paradigme de la propriété ou de la domination, les deux notions étant toujours exprimées par un seul et même mot. Cela marque précisément le moment où une appropriation violente de l'environnement naturel se transforme en élevage ou en soins. Dans les systèmes totémiques étudiés par les anthropologues en Australie ou en Amérique du Nord, ce devoir de soin est poussé à l'extrême. Chaque groupe possède une espèce animale donnée. On parle ainsi du clan des ours, du clan des élans, du clan des aigles, etc. Concrètement, cela signifie que les membres du groupe ont interdiction de chasser, tuer, blesser ou consommer des spécimens de cette espèce. Mieux, ils ont obligation de se plier à des rituels visant à favoriser son épanouissement. En droit romain, socle de presque tous les systèmes juridiques contemporains, la conception de la propriété réduit ce devoir de soin et de partage à la portion congrue, voire l'élimine totalement. C'est en cela qu'elle est unique. Ainsi conçue, la propriété repose sur trois droits élémentaires et indissociables. L'usus, le droit d'user, le fructus, le droit de jouir des produits d'un bien, par exemple les fruits d'un arbre, et l'abusus, le droit de disposer, c'est-à-dire d'endommager ou de détruire. L'usufruit, combinaison des deux premiers droits, n'est pas considérée comme une pleine propriété juridique. Celle-ci se définit prioritairement par la possibilité de ne pas prendre soin du bien, voire de le détruire à sa guise. Voilà, fermez les guillemets. Alors, pour revenir à quelque chose d'un peu plus contemporain, nous, dans notre cas, c'est à la Révolution française que l'institution juridique de la propriété privée a été inventée, basée donc sur le droit romain. Donc c'est assez récent et c'est quelque chose qui ne s'est pas fait sans heurte. De l'Antiquité à la fin du Moyen-Âge en Europe, il y a la notion de biens communaux qui est extrêmement présente. Par exemple, dans le droit médiéval, il y a le droit de glanage, c'est-à-dire ramasser des châtaignes ou du bois ou faire paître ses animaux sur les terres des seigneurs qui théoriquement sont aux seigneurs, mais voilà, la propriété n'existe pas tellement. Bon, petit à petit, il va y avoir des restrictions de ces possibilités, du coup, jusqu'à la Révolution. Et c'est l'instauration de la propriété privée. Et donc, je vais vous lire un deuxième extrait, écrit par une chercheuse américaine, Sylvia Federici, professeure en sciences sociales aussi. Ce livre s'appelle « Caliban et la sorcière ». Dès le début du capitalisme, la paupérisation de la classe ouvrière a commencé par la guerre et la privatisation de la terre. Il s'agissait d'un phénomène international. Les marchands européens avaient exproprié la plus grande part des terres des îles Canaries au milieu du XVIe siècle et les avaient transformées en plantations sucrières. Le processus de privatisation de la terre le plus massif eut lieu en Amérique où, au milieu du XVIIe siècle, les Espagnols s'étaient appropriés un tiers des terres indigènes communes avec le système de l'encomienda. La chasse aux esclaves en Afrique eut aussi pour conséquence la perte de terres. En Europe, la privatisation de la terre commença à la fin du XVe, accompagnant l'expansion coloniale. Elle prit différentes formes, éviction des métayers, augmentation des rentes et hausse des taxes publiques, entraînant l'endettement et la vente des terres. En Angleterre, la privatisation de la terre fut réalisée principalement par le biais des enclosures. Un phénomène qui a fini par être tellement associé à l'expropriation des travailleurs de leurs richesses communes que, de nos jours, il est employé par les anticapitalistes pour désigner chaque attaque sur les acquis sociaux. Au XVIe siècle, enclosure était un terme technique indiquant un ensemble de stratégies que les seigneurs anglais et les riches fermiers utilisèrent afin d'éliminer la propriété foncière communale et étendre leur possession. Il faisait principalement référence à l'abolition du système d'open field, un arrangement par lequel les villageois détenaient des bandes de terrain non contigus dans un champ non clôturé. L'enclosure comprenait aussi la division des communaux par des clôtures et la démolition des baraques des pauvres paysans qui ne possédaient pas de terre mais qui pouvaient survivre en ayant accès aux droits coutumiers. De vastes étendues de terre furent aussi encloses afin de créer des réserves de cervidés et des villages entiers furent détruits pour servir de pâture. Alors que les enclosures se poursuivirent jusqu'au XVIIIe siècle, même avant la réforme, plus de 2000 communautés rurales avaient été détruites de la sorte. Débuta alors une intense lutte, culminant en un certain nombre de soulèvements, accompagnés d'un long débat sur les mérites et défauts de la privatisation de la terre, qui se poursuit encore aujourd'hui. Débat relancé par l'attaque de la Banque mondiale contre les derniers communaux planétaires. Pour le dire vite, l'argument avancé par les modernisateurs, quelle que soit leur perspective politique, et que les enclosures renforcent l'efficacité de l'agriculture et que la fragmentation qu'elles génèrent est compensée par une hausse significative de la production agricole. Mais de tels arguments ne tiennent pas. La privatisation de la terre et la marchandisation de l'agriculture n'ont pas augmenté l'offre alimentaire disponible à tout un chacun, bien que davantage de nourriture ait été mise sur le marché et envoyée à l'exportation. Pour les travailleurs, cela signifiait la famine pour les deux siècles à venir, tout comme aujourd'hui. Même dans les zones les plus fertiles d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, la malnutrition est endémique du fait de la destruction de l'emploi communal de la terre et de la politique « exporter ou périr » imposée par les programmes d'ajustement structurel de la Banque mondiale. L'introduction de nouvelles techniques agricoles en Angleterre ne compensa pas davantage cette perte. Au contraire, le développement du capitalisme agraire allait main dans la main avec la paupérisation de la population rurale. Qu'à peine un siècle après l'émergence du capitalisme agraire, 60 villes européennes aient institué une forme d'assistanat social ou s'y préparer, et que le vagabondage soit devenu un problème international, témoigne de la misère engendrée par la privatisation des terres.
Tos cobelos, cujum tiretos, como vogelos, bem comos.
Ci manca quattro pavele a uno scudo. Ci manca quattro pavele a uno scudo.
Ici, nous sommes à Douarnenez, sur Vogel les Mouettes, place du festival, diffusée sur la radio Transistor 100.4 FM. Nous accueillons Barthérémy, du coup usager de la cantate.
Et bonjour.
Bonjour.
Du coup, nous avons avec Jerry quelques questions à vous poser. La première question, c'est qu'est-ce que la cantate et c'est quoi l'histoire de ce lieu et il se situe où ?
Donc, la cantate, c'est un gros bâtiment qui est situé à Douarnenez, donc en face de l'île Tristan, donc en bord de mer, avec vue sur mer, c'est une grande chance. C'est un grand bâtiment qui était anciennement une usine. Bon, faudrait qu'on cherche un peu mieux dans l'historique pour trouver. Mais et c'est plus connu aussi sous les anciens bâtiments d'Autolissat. Pour les douardenistes, apparemment, c'est quelque chose du monde d'avant qui est connu. Sinon, c'est un lieu qui a été racheté pour une somme assez modique il y a quelques années par des propriétaires et qui est depuis une dizaine d'années, qui avait été un peu laissé sans utilisation, ce qu'on pourrait nommer un peu à l'abandon. Et donc de ce fait, face à la pressurisation des logements, face à l'explosion du Airbnb et des difficultés pour les plus précaires à Douarnenez de se loger, c'est un lieu qui a été donc occupé avec objectif d'habitation. Donc voilà, donc c'est occupé, on dirait, de ça à partir de 2019. Et donc aujourd'hui, c'est toujours un lieu d'habitation et c'est aussi un lieu qui accueille beaucoup d'activités sur le domaine culturel, sur le domaine... donc on va être sur de la musique, sur des fanfares, sur des activités type vélo, type réparation de ce qu'on veut, du bateau. Enfin voilà, c'est un lieu qui accueille tout le monde, c'est un lieu gratuit, c'est un lieu où chacun, chacune peut venir proposer ce qu'il souhaite y mettre en place et faire. Voilà, pour présenter rapidement.
Ok, merci. Du coup, à quel manque l'ouverture de ce bâtiment et la création de ce collectif répondait, du coup, dans la ville de Douarnenez, notamment ?
Bah, le tout début, l'origine, c'est cette galère de logement. C'est-à-dire que les premières personnes qui ont ouvert cet endroit-là, c'était des personnes qui n'arrivaient absolument pas à trouver où se loger sur Douarnenez pour des problèmes de thunes et de l'augmentation des prix. Et du coup, ce bâtiment vide qui était là, qui était en plus en cours d'expropriation, bon, on en reparlera peut-être un peu avec des mises en danger de péril, du coup, a été ouvert pour ça, pour pallier à ce manque de logement. Donc, il y a pas mal de personnes qui ont pu habiter à ce moment-là. Et assez rapidement après, vu la taille de cet endroit-là et la chance qu'il y a d'avoir ce plancher immense face à la mer, bah, ça a donné envie aussi de s'organiser pour en faire des aventures collectives. Donc voilà, donc ça a été dit juste avant, mais ouais, cantine, vélo, concert, résidence, discussion politique, il y a plein de trucs qui ont été faits à la cantate. Ouais. Et donc, aussi je dis ça parce que c'est un des besoins qui était identifié sur le pays de Douarnenez, et un peu par tout le monde, c'est que des espaces gratuits où c'est possible de s'organiser, puis pas beaucoup, où c'est rejoignable, et où on peut imaginer y faire des aventures de qui nous ressemblent, il n'y en a pas des masses. Donc ça, c'était aussi un des besoins que vient pallier cette ouverture.
Ok. Et on a pu voir dans les médias locaux récemment, il y a eu plusieurs articles de la presse et de vous par rapport à la cantate. Elle a défrayé la chronique un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui se passe autour du lieu ? Quelles sont les menaces qui pèsent dessus actuellement et ouais, où vous en êtes, quoi ?
Peut-être pour éclairer un peu, bon, c'est vrai que là, les derniers articles n'étaient pas en notre faveur, évidemment. C'est pour ça qu'on a aussi fait un article en droit de réponse pour expliquer un peu ce qui s'était passé. Peut-être pour expliquer un peu, du coup, la situation, du coup, c'est plus la situation juridique sur laquelle on est actuellement avec la cantate. C'est que donc, la mairie avait intenté une expropriation des propriétaires, puisque le bâtiment a été jugé dangereux et mis en péril. Enfin, voilà. En gros, la mairie avait une visée de récupérer ce lieu-là. C'est principalement ça aussi qui s'est présenté. Ils espéraient le récupérer. Après, ça, c'est technique, juridique, je ne suis pas parfait là-dessus. Mais surtout qu'ils ont fait un appel à projet donc en 2021, appel à projet auquel on avait participé, on avait envoyé un dossier. Étrangement, il n'a pas été retenu le nôtre. C'était donc un autre projet avec une association, j'ai plus le nom, mais et du coup en fait la mairie a accompagné ce projet-là et les propriétaires qui ne s'intéressaient plus du tout à leur lieu depuis des années se sont remanifestés en se disant tiens ça vaut peut-être quelque chose. De là la mairie s'est retirée de cet endroit-là et a envoyé le projet qu'elle portait à Tréboul et donc là on est un peu face à voilà, des propriétaires qui ne s'intéressaient pas trop à leur logement, avec qui on avait des échanges hein, quand même, il faut aussi se
peut-être le rappeler. Ouais. Mais... petite historique autour ouais. De ça, c'est que quand la procédure d'expropriation s'est lancée, donc la propriétaire actuelle, qui est une ancienne cantatrice, d'où le nom la cantate, plutôt voyait d'un bon oeil que ce lieu serve à des personnes qui avaient des galères de logement et surtout serve à de la création artistique. Elle, voilà, ça lui parlait beaucoup qui est ça. Et quand c'était en procédure d'expropriation, l'enjeu, c'est que c'est la mairie qui dise eh ben, vous n'êtes plus propriétaire et c'est nous qui définissons un prix qui est plutôt un prix assez bas. Quand cette expropriation est tombée il y a un an, alors on ne sait pas très bien pourquoi c'est tombé, parce qu'apparemment, la mise en péril a disparu, on ne sait pas trop, mais sûrement plutôt qu'il y a une affaire de sous derrière plus importante. C'est-à-dire que s'il n'y a plus d'expropriation, c'est la loi du marché qui revient, donc le prix devient intéressant. Et donc là, il y a une nouvelle manifestation des propriétaires qui sont revenus en disant En fait, ce lieu-là, acheté, on a trouvé 46 000 euros en 2019. Enfin, Telegram, en 2019, parle de 46 000 euros pour cet achat-là. Peut-être, en fait, il ne vaut pas 100 000 balles s'il est exproprié, mais plutôt 500 000 vu comment il est placé, voire plus que ça. Ça, c'est pour répondre un peu à la question sur les articles de presse qui sont arrivés. C'est que donc, l'article de presse, il fait mention du propriétaire qui, en ayant constaté que l'atelier vélo était peine rustine, avait choisi de déménager parce qu'il y avait une proposition de relogement, a cru que l'ensemble des personnes qui habitaient là étaient parties, a cru entre guillemets, et du coup est rentré dans le lieu et a changé les serrures, ce qui est tout à fait dans l'illégalité, c'est-à-dire que ce n'est pas lui l'occupant principal, il n'habite pas là, il est juste propriétaire. Et voilà, donc s'en est suivi qu'il y a une des personnes usagères de la cantate qui a constaté ça, qui a du coup appelé les amis à dire venez voir qu'est-ce qui s'y passe. Et on s'est retrouvé du coup à plusieurs devant du coup la porte fermée, le propriétaire, puis la police, sans aucune violence, à juste constater que c'était pas possible de récupérer cet endroit-là comme ça, et qu'il y avait toute une procédure juridique à lancer. Voilà. S'en est suivi du coup cet article qui met des grandeurs du le fameux fantasme de un propriétaire qui ne peut plus se loger parce que des squatteurs en profitent. C'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que le lieu, enfin ce propriétaire-là, on lui a même proposé, si c'était des vraies galères de relogement, qu'on en discute ensemble, de lui payer un loyer, de racheter le bâtiment. C'est pas les démarches qui l'intéressent. Racheter le bâtiment à partir de 500 000 euros, on peut commencer à en parler. Voilà.
Ok, et donc qu'est-ce que c'est votre lien en ce moment avec la mairie et les collectivités locales? Est-ce que vous arrivez à instaurer un dialogue avec eux? Comment ça se passe par rapport à la ville?
Ça c'est c'est quelque chose qu'on a envie d'essayer de mettre en place, de commencer à créer ce lien-là, là, de faire un peu du réseau et tout ça. On sait déjà qu'il y a des personnes avec qui on va avoir du mal à s'entendre, ce qui est le cas de la mairie, par exemple, où plusieurs fois, quand même, nous, on est allés, avec une bonne volonté, présenter un dossier, essayer de venir discuter de ça, essayer de raconter qu'en fait, on avait des galères et on n'est pas les seuls. Enfin, nous, par exemple, on se situe carrément dans les mêmes problématiques et des enjeux des Roches Blanches. C'est-à-dire, en fait, ils sont où les espaces qui permettent de s'organiser collectivement, gratuitement, sans trop de thunes et à la manière qui ouvre d'autres possibles qu'un monde capitaliste avec horaire, pour dire quelque chose comme ça. Mais par contre, nous, il y a un enjeu aussi de se dire, au-delà de la question du statut juridique, c'est-à-dire légal, pas légal, squat ou pas, on est plein de collectifs, d'organisations sur le territoire à être autour de ces questions-là. Le droit à la culture, le droit à se former, le droit à habiter, le droit à se loger. Voilà. Donc, ça peut aller de Douarnenez Habitat au Festival du Film. On est tous quelque part dans ce truc-là, avec des endroits différents de forme de vouloir s'approprier politiquement la galère. Mais donc oui, sur la question est-ce qu'on a des liens, va falloir qu'on les travaille, qu'on les crée, il va falloir qu'on se bagarre. Quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça.
Ok. Et qu'est-ce que les habitantes de Douarnes, ou pas de Douarnes, peuvent faire pour vous aider à ce que la ville puisse garder ce lieu?
Ce qui va être important, et je pense que c'est un peu le même soutien qui va être à amener aux Roches, c'est, et à tous les lieux qu'il y a comme ça en France, c'est quand il y a des événements, quand il y a des dynamiques, quand il y a des discussions, quand il y a des possibilités de faire des choses comme ça, il faut se saisir de ces lieux-là. Enfin, c'est des petits îlots qui nous restent un peu dans cet univers un peu compliqué qu'on a actuellement. Et je pense que le gros du soutien, en tout cas nous pour la cantate, parce que c'est une dynamique qu'on va impulser en septembre aussi, on va reprendre un peu les activités, on va reprendre les événements, on va reprendre plein de choses, mais c'est surtout de venir utiliser ces lieux-là, les faire vivre en fait, parce que si on se retrouve à être plus nombreux et à juste passer notre vie à les défendre dans ce domaine juridique, je crois que le seul truc qui fait aussi du bien pour avoir envie de faire les choses juridiques ou d'aller plus loin dans la lutte, c'est qu'on fasse plein de trucs ensemble sur ces endroits-là. Donc ça va être principalement cette chose-là, le gros soutien, c'est venez, c'est ouvert, c'est fait pour vous, c'est fait pour tout le monde, c'est fait pour qu'on utilise ces lieux-là, il faut y aller à fond.
Super, merci.
Voilà.
As we go marching, marching, and number we mended, go crying, swagger, singing, the ancient call for bread. Small love than love and beauty, the dragon spirits knew. Yes, it is bread we fight for, but we fight for roses too.
Merci, Carolina. Alors maintenant, on va poser quelques questions à Guillaume, donc, qui a participé à la fabrication, à l'écriture et à la recherche-action du collectif Droit à la ville d'Ouarnenez pour écrire le livre « Habiter une ville touristique ». Et donc, bonjour Guillaume.
Salut.
Est-ce que tu peux nous dire c'était quoi le collectif Droit à la ville d'Ouarnenez et qu'est-ce qui a motivé sa création ? De quand il date déjà ?
Eh ben, il date de 2018. Il est né après une grande réunion publique qui a eu lieu suite à l'achat d'un lieu emblématique à Ouarnenez qui s'appelle l'Abri du Marin. Voilà, on pourra raconter cette histoire un peu, mais qui est assez emblématique de la trajectoire de cette ville. Et en tout cas, suite à l'achat de ce lieu par une multimillionnaire en 2018, donc c'est un lieu patrimonial, quoi, enfin c'est, qui a cette dimension-là en tout cas, il y avait une réunion publique qui avait été organisée, qui portait le titre « Dans quelle ville voulons-nous vivre ?» Donc il y avait l'idée un peu que Ouarnenez était peut-être en train de se mettre sur une trajectoire sur laquelle il y avait le sentiment qu'il n'y avait pas tellement de prise collective, quoi, que donc ça allait être la mise en tourisme, la gentrification, l'augmentation des prix de l'immobilier, tout ça. Donc il y a eu cette réunion publique qui a eu réuni 250 personnes à la salle des fêtes en novembre. Donc c'était quand même un moment assez fort avec beaucoup de monde et aussi pas mal de d'avis contradictoires. Donc il y avait aussi par exemple des membres de la majorité qui étaient là, donc, municipale. Donc il y a eu la multimillionnaire qui a acheté ce lieu était là aussi. Donc il y avait quand même une espèce de chose presque un peu théâtrale même. Et en tout cas, suite à cette réunion publique, il y a eu l'envie de se mettre au travail et de dépasser un peu des ressentis, enfin, ce qui était perçu comme ça dans cette réunion. Il était beaucoup dit que les gens qui l'organisaient et qui parlaient de cette trajectoire sur laquelle Ouarnenez semblait se placer, il y a des gens qui disaient que c'était un peu vraiment être des oiseaux de mauvais augure, agiter des peurs, que pas du tout, qu'en fait le problème à Ouarnenez, qu'il n'y avait pas de problème de logement, que le problème c'était les locaux vétustes et qu'il fallait de l'argent pour les retaper, donc qu'il fallait favoriser l'accès à la propriété, etc. etc. Enfin bref, il y avait un diagnostic qui n'était pas du tout le même, et donc il y a eu l'envie de se mettre au travail, donc faire cette recherche-action pour étayer un peu ces ressentis, et voilà, donc hélas, 5 ans après, la situation elle a évolué dans un sens qui était bien celui pointé par les gens qui organisaient cette réunion. Quoi. Par exemple, l'Abri du Marin il a été acheté 290 000 euros en 2018 et il était mis en vente en 2021 940 000 euros, sans travaux, manifestes, etc. Et aujourd'hui, c'est un lieu qui a été vendu, qui va devenir des logements de luxe. Je crois que c'est 8000 euros le mètre carré pour des studios, donc clairement de la résidence secondaire, etc. Donc ce lieu, il dit quelque chose de la trajectoire de Ouarnenez. En tout cas, nous, le collectif, on s'est mis au travail pendant ces années, on a fait le livre, mais ce n'était pas le but de notre recherche. Il y a eu plein de choses qui ont été faites, je pense à part des vidéos TikTok, on a un peu tout essayé, mais il y a eu aussi ce livre qui a été créé. Et voilà, du coup, c'est un peu l'histoire de ce collectif. Il y a aussi des mobilisations, des manifs, enfin plein de choses, quoi.
Et du coup, ouais, c'est pour ça qu'on voulait aussi t'inviter aujourd'hui, parce que vu votre recherche et vos actions que vous avez faites il y a quelques années, on a l'impression qu'elles se cristallisent un peu aujourd'hui avec ce qui se passe pour la cantate, les roches. Il y a eu certainement d'autres lieux ces dernières années qui ont disparu ou qui ont été menacés. Et... Enfin, c'est vraiment quelque chose que le livre a mis en exergue depuis quelques années. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur un peu le détail de vos actions, de comment vous avez fonctionné pour écrire le livre en collectif et surtout, c'est quoi les lignes principales que vous avez pu déceler en faisant cette recherche ?
Alors du coup, il y avait nos actions, très diverses, mais l'idée c'était à la fois d'organiser des discussions, mais il y a aussi des concours de cartes postales, des manifs, tout plein de choses. Il y a eu plein de choses qui ont été faites aussi par d'autres collectifs que Droit à la ville pendant ces années-là. Il y a eu une occupation du Rosmeur au moment où il y a eu
la rénovation du port, c'était à peu près en même temps que l'achat de ce lieu dont je parlais, l'abri du marin. Donc c'est vrai qu'il y avait un moment aussi où le port était refait à neuf, avec des lumières bleues réalisées par un artiste contemporain qui a vécu à Douarnenez jadis, etc. Enfin, une sorte de génie, un enfant du pays. Les lumières bleues, on ne les voit plus trop aujourd'hui parce que voilà, ça n'a pas trop marché, ce projet-là. Mais en tout cas, il y avait un moment de polissage, de lissage de cette ville. Du coup, nous, il y a plein de collectifs qui ont émergé à ce moment-là, suite à cette réunion publique. Il y avait d'abord un collectif dans l'année 2050, puis ensuite il y a eu droit à la ville, et voilà, il y a eu tout plein d'occupations qui ont été faites. Je ne sais pas si je reviens vraiment dans le détail là-dessus, mais sur le processus d'écriture, et ben, c'est pas simple de faire un livre. Je crois qu'on s'est dit qu'on ne ferait plus ça. Mais on est content de l'avoir fait, et le faire, c'était aussi l'occasion de se mettre en lien avec plein d'autres territoires qui connaissent des problématiques similaires, et même des territoires assez différents, des espaces urbains, et en tout cas on a tout plein de choses à se raconter sur ce qui se passe à Douarnenez. Il y a eu beaucoup de liens qui ont été, enfin il y a des liens qui ont été très forts avec les collectifs insulaires aussi. Donc les îles bretonnes connaissent bien ces situations de crise du logement aussi parce que c'est des espaces clos. Donc les promoteurs de la mise en tourisme de Douarnenez disent ben c'est pas grave, on n'est pas obligé d'habiter à Douarnenez pour être douarneniste, il suffit d'aller un peu plus loin, ben, sur les îles c'est pas trop possible quoi. Du coup eux ils connaissent bien cette situation, en tout cas c'est ce qui est dit à Douarnenez, c'est plus possible de se loger dans le centre-ville et c'est pas grave, on n'a qu'à aller un peu plus loin dans les terres et voilà, s'éloigner du bord de mer. Le sous-titre du livre c'est Vue sur mer pour les précaires, en fait c'est beaucoup aussi cette question là c'est quoi les espaces qui sont stratégiques, qui font l'objet de ce renchérissement, de cette spéculation, et qu'est-ce que ça laisse pour les gens qui sont moins bien dotés en capitaux. Donc voilà. Et j'ai oublié ta troisième question.
Mais quel lien vous avez pu établir avec les gens de la ville, en gros? C'était quoi la réception de votre recherche, du livre plus tard, de vos actions? Est-ce que vous avez senti que ça galvanisait quelque chose autour de cette problématique? Est-ce que vous avez été en lien avec les élus? Comment ça s'est passé le travail dans la ville à ce sujet, et comment vous l'avez senti quoi?
Et ben, pas mal d'hostilité du point de vue de la maire actuelle, mais avec laquelle on a fait un entretien. En fait, il y avait des stagiaires de Sciences Po qui sont venus participer à la recherche action et du coup qui ont réussi à avoir un entretien avec la maire. Je pense que Sciences Po, ça l'a un peu amadoué. L'idée aussi que nous on a reçu une subvention pour cette recherche action, du coup ça donnait un petit gage de sérieux aussi qui fait qu'il y a eu un écho assez bon au début de cette recherche. Et après la réception dans la ville, elle est dure à définir. Enfin en tout cas le sujet du logement, peut-être il est toujours actuel et toujours très prégnant, mais ces dernières années il a vraiment existé sous forme de mobilisation ici, et il y a eu des manifestations à l'échelle de la Bretagne, donc dans différents territoires, celle de Douarnenez, je ne sais plus combien de milliers on était, mais c'était assez fort pour une ville de 14 000 habitants. Du coup je pense à vraiment participer à animer ce sujet là et surtout ce qui était important pour nous c'était de mettre les bons termes et de bien poser les enjeux, comme on l'a fait dans cette émission. Qu'est-ce que c'est que l'enjeu de l'habitat, qu'est-ce que c'est que la propriété, et du coup participer à déjà à dire qu'il y avait un problème de logement, ça je pense que plus personne ne peut dire le contraire aujourd'hui, même la mairie, mais c'était le cas il y a 5 ans, se mettre d'accord sur le diagnostic et essayer d'avoir le même vocabulaire et de mettre les mêmes termes, ou en tout cas de poser le sujet dans les médias d'une façon qu'on trouvait plus satisfaisante que c'était le cas avant.
Et pour un peu une question de fond quand même, à ton avis, à votre avis, c'est quoi l'influence d'une mairie sur justement cette dynamique de logement dans une commune telle que Douarnenez? Enfin, que peut faire ou ne pas faire une mairie? En quoi elle peut influencer ça? C'est une question vaste, mais il y a peut-être des...
Bon, il y a des contraintes financières très claires. La mairie ne peut pas racheter tous les lieux, mais j'ai l'impression que le minimum déjà, c'est de dire aussi la situation. Je sais pas, de dire qu'il y a un problème, que c'est pas un devenir viable pour cette ville que tous les logements deviennent des résidences secondaires ou des Airbnb. On ne sait pas tous, mais en tout cas, il y a en tout cas des logements qui disparaissent du marché, qui sont plus accessibles à la location. Du coup, déjà se mettre d'accord là-dessus. Et après, c'est le minimum.
Et après, il y a des leviers clairs qui existent. Demander à ce que Douarnenez soit classé zone tendue, ça ouvrirait tout un ensemble de leviers, de capacités d'action pour la mairie, et c'est pas le cas. Et aussi de porter un projet, de dire c'est quoi, d'être un peu clair sur le projet de cette ville, quoi. Donc qu'est-ce qu'on veut faire ? On a l'impression que tout le monde est d'accord. Personne n'a envie que cette ville devienne Rochefort-en-Terre, qui est très fière de ses illuminations de Noël, qui ramène 200 000 personnes au mois de décembre, mais qui n'a plus de boulangerie, ou Bénodet, qui n'a plus de médecin. La maire de Douarnenez, elle veut garder des classes d'école ouvertes, mais mène une politique qui attire des personnes plutôt riches et âgées, qui donc vont pas participer à ce que ces écoles restent ouvertes. Du coup, elle est prise dans des contradictions. Mais au moins, se mettre d'accord sur le diagnostic de cette situation, ce serait déjà le minimum, et ce minimum, il n'est même pas fait ici.
Ok, merci beaucoup Guillaume. Vous êtes toujours sur Vos gueules les mouettes au Festival de cinéma de Douarnenez, retransmis sur Transistor au 100.4 FM.
Même si vous croyez maintenant que tout est bien comme avant, parce que vous avez voté l'ordre et la sécurité, même si vous ne voulez pas d'aider ceux qui luttaient, même si vous vous en foutez, chacun de nous est concerné.
Merci à Carolina encore et à tous nos invités de s'être rendus disponibles malgré l'actualité brûlante de leurs lieux respectifs. Et pour conclure, plusieurs rappels parce qu'ils sont importants. On a vu que les lieux comme les Roches Blanches et la Cantate sont des refuges sociaux et culturels pour plein de personnes à Douarnenez et ailleurs. Et comme vous l'aurez compris, nous ici, on est plutôt partisanes du droit au logement plutôt qu'à la propriété, en tout cas de la dignité humaine plutôt qu'au capital pour un mieux vivre ensemble. Il nous paraît donc indispensable de défendre les lieux refuges à tout prix et de se mobiliser pour que d'autres politiques publiques soient mises en place afin que les villes comme Douarnenez soient accueillantes pour tous. Vue sur mer pour les précaires. Et donc, on rappelle que les Roches ont mis en place plein d'outils pour les soutenir. Ils sont encore là sur le festival cet après-midi, donc vous pouvez aller les voir. Et ils ont de la documentation et plein d'infos. Ils ont une pétition qu'on peut trouver en ligne sur change.org pour la protection des Roches Blanches et de ses habitantes. Ils ont une cagnotte sur Hello Asso, sur le sens de la vis, collecte, préservons les Roches Blanches. Vous pouvez les suivre aussi sur Instagram, à les-roches blanches au pluriel, tout attaché, minuscule. Vous pouvez aussi remplir un petit CERFA pour la défense juridique des roches. Et la cantate aussi, on peut les soutenir donc en allant les voir, participer aux activités, participer aux événements qui reprendront à partir de septembre et juste pousser la porte pour venir les rencontrer. Et nous, on remercie le Festival de cinéma d'avoir permis à Vos gueules les mouettes de se remettre en selle, à Transistor de nous diffuser sur ces ondes, on le répète, au 100.4 FM depuis Le Fou jusqu'à Quimper. Merci à Jean-Louis et Frédéric à la technique et à toute l'équipe de Vos gueules les mouettes. On vous laisse avec un dernier chant militant interprété par Carolina.
Juillet 1936, dans les casernes catalanes, la mort bute sur les milices et le peuple compte ses armes. Dans les villages et les hameaux, les paysans groupent les terres en un seul et riche morceau et passent les vents libertaires. Donnez-moi ta main, camarade, prêtez-moi ton cœur, compagnon, nous referons les barricades et la vie nous la gagnerons. À quelques heures de Barcelone, c'est son groupe de menuisières et son patron, tout refonctionne. On sourit dans les ateliers, sur la place de la mairie, qu'on a changé en maternelle, des gens ont pris la blanchisserie. Et sortent les linges au soleil. Donnez-moi ta main, camarade. Prêtez-moi ton cœur, compagnon. Nous referons les barricades et la vie nous la gagnerons. Tandis que quelques militaires font leur métier de matador, des ouvriers, des ouvrières détruisons prison d'abord. Là-bas, c'est la mort qui s'avance, tandis qu'ici, à madame, c'est l'anarchie, la liberté dans l'espérance. Ils ont aussi la vibre aussi. All together, donnez-moi ta main, camarade, prêtez-moi ton cœur, compagnon. Nous referons les barricades et la vie nous la gagnerons. Donnez-moi ta main, camarade, prêtez-moi ton cœur, compagnon. Nous referons les barricades et la vie nous la gagnerons.
Merci.
Vos gueules les mouettes. Una radio colectiva, asociativa, alternativa, chévere y muy chévere.
Vogel-les-mouettes.com